Chapitre 12. Sous la fenêtre, le père Clouis reparait sur la scène le jeu de barre. La cérémonie que nous venons de raconter, et qui, par des fédérations partielles, avait pour but de relier entre elles toutes les communes de France, n'était que le prélude de la grande fédération qui devait avoir lieu à Paris le 14 juillet 1790. Dans ces fédérations partielles, les communes jetaient d'avance les yeux sur les députés qu'elles enverraient à la fédération générale. Le rôle qu'avaient joué dans cette journée du dimanche 18 octobre Billot et Pitou les désignait naturellement au suffrage de leurs concitoyens quand le grand jour de la fédération générale serait arrivé. Mais en attendant ce grand jour, tout était rentré dans les conditions de la vie ordinaire dont chacun venait de sortir, momentanément, par la secousse qu'avait donnée aux calmes habitudes provinciales ce mémorable événement. Quand nous parlons des calmes habitudes provinciales, nous ne voulons pas dire qu'en province, moins qu'ailleurs, la vie ait son cours égayé par les joies ou assombrie par les douleurs. Il n'y a pas de ruisseau, si petit qu'il soit, depuis celui qui murmure sur l'herbe du verger d'un pauvre paysan jusqu'au fleuve majestueux qui descend des Alpes comme d'un trône pour aller se jeter dans la mer comme un conquérant, qui naît sur sa rive humble et orgueilleuse, semée de pâquerettes ou bordée de villes, ses intervalles d'ombre et de soleil. Et si nous en doutions, après le palais des Tuileries, où nous avons introduit nos lecteurs, la ferme du père Billot, où nous venons de les ramener, pourrait nous en donner un exemple. Non point qu'à la surface, tout ne parut calme et presque souriant. En effet, le matin, vers 5 heures, la grande porte donnant du côté de la plaine où s'étend la forêt, l'été comme un vert rideau, l'hiver comme un crêpe sombre, la grande porte s'ouvrait. Le semeur en sortait à pied, son sac de froment mêlé de cendres sur le dos, le laboureur à cheval allant chercher dans les champs la charrue dételée au bout du sillon de la veille, la vachère conduisant son troupeau mugissant, guidé par le taureau, majestueux dominateur, suivi de ses vaches et de ses génisses, parmi lesquelles marche la vache favorite que l'on reconnaît à sa clochette sonore. Enfin, derrière eux tous, monté sur son vigoureux ongre normand, trottant l'amble, venait Billot, le maître, l'âme, la vie de tout ce monde en miniature et de tout ce peuple en abrégé. Un observateur désintéressé n'eût point remarqué sa sortie, et dans cet œil recouvert d'un sourcil sombre et interrogeant les environs, dans cette oreille attentive à tous les bruits, dans ce cercle d'écrits autour de la ferme, et pendant la durée duquel son regard, comme celui d'un chasseur qui relève une piste et qui trace une enceinte, ne quittait pas un instant la terre, un spectateur indifférent n'eût vu que l'acte d'un propriétaire s'assurant que la journée sera belle et que, pendant la nuit, loup pour ses bergeries, sanglier pour ses pommes de terre, lapin pour ses trèfles, ne sont point sortis de la forêt, asile dans laquelle peut seul les atteindre encore le plomb princier du duc d'Orléans et de ses gardes. Mais pour quelqu'un qui eût su ce qui se passait dans le fond de l'âme du brave fermier, chacun de ses gestes ou de ses pas eût pris un caractère plus grave. Ce qu'il regardait à travers l'obscurité, c'est si quelque rôdeur ne se rapprochait pas ou ne s'éloignait pas furtivement de la ferme. Ce qu'il écoutait dans le silence, c'était si quelque appel mystérieux ne correspondait point à la chambre de Catherine, au bouquet de saules bordant la route ou au fossé séparant la forêt de la plaine. Ce qu'il demandait à la terre, interrogée si vivement par son regard, c'est si elle n'avait point gardé l'empreinte d'un pas dont la légèreté ou la petitesse eût dénoncé l'aristocratie. Quant à Catherine, nous l'avons dit, quoique le visage de Billot se fût un peu adouci pour elle, elle ne continuait pas moins à sentir, comme une gardienne effarée, passer autour d'elle à chaque instant la défiance paternelle. Il en résultait que, pendant ces longues nuits d'hiver solitaires et anxieuses, elle en était à se demander si elle préférait qu'Isidore revînt à Boursonne ou demeurât éloignée d'elle. pour la mère Billot, elle avait repris sa vie végétative. Son mari était de retour, sa fille avait recouvré la santé, elle ne regardait point au-delà de cet horizon borné, et il eût fallu un œil autrement exercé que le sien pour aller chercher, au fond de l'esprit de son mari, le soupçon, au fond du cœur de sa fille, l'angoisse. Pitou, après avoir savouré avec un orgueil mélangé de tristesse son triomphe de capitaine, était retombé dans son état habituel, c'est-à-dire dans une douce et bienveillante mélancolie. Suivant sa régularité ordinaire, il faisait le matin sa visite à la mère Colombe. S'il n'y avait point de lettre pour Catherine, il revenait tristement à Aramon, car il songeait que de la journée, Catherine, ne recevant point de lettre d'Isidore, n'aurait pas occasion de penser à celui qui les apportait. S'il y avait une lettre, au contraire, il la déposait religieusement dans le cœur du saule et revenait souvent plus triste encore que les jours où il n'y en avait pas, en songeant cette fois que Catherine ne pensait à lui que par ricochet, et parce que le beau gentilhomme que la Déclaration des droits de l'homme avait bien su priver de son titre, mais n'avait pas pu priver de sa grâce et de son élégance, était le fil conducteur par lequel il percevait la sensation presque douloureuse du souvenir. Cependant, comme il est facile de le comprendre, Pitou n'était point un messager purement passif, et s'il était muet, il n'était pas aveugle. À la suite de son interrogatoire sur Turin et sur la Sardaigne, qui lui avait révélé le but du voyage d'Isidore, il avait reconnu au timbre des lettres que le jeune gentilhomme était dans la capitale du Piémont. Puis, enfin, un beau jour, le timbre avait porté le mot « Lyon » au lieu du mot « Turin », et deux jours après, c'est-à-dire le 25 décembre, une lettre était arrivée portant le mot « Paris » au lieu du mot « Lyon ». Alors, sans avoir besoin d'un grand effort de perspicacité, Pitou avait compris que le vicomte Isidore de Charny avait quitté l'Italie et était rentré en France. Maintenant, une fois à Paris, il était évident qu'il ne tarderait pas à quitter Paris pour Boursonne. Le cœur de Pitou se serra. Sa résolution de dévouement était prise, mais son cœur n'était point pour cela insensible aux différentes émotions qui venaient de l'assaillir. Ainsi, le jour où arriva cette lettre datée de Paris, Pitou, pour se faire un prétexte, résolut-il d'aller placer ses collets sur la garderie de la Bruyère au Loup, où nous l'avons vu fructueusement opérer au commencement de cet ouvrage. Or, la ferme de Pisseleu était juste située sur la route d'Aramon, à cette partie de la forêt qu'on appelait la Bruyère au Loup. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que Pitou s'y arrêtât en passant. Il choisit pour s'y arrêter l'heure où Billot faisait au champ sa course de l'après-dîner. Selon son habitude, Pitou, coupant à travers plaine, allait d'Aramon à la grande route de Paris à Villers-Cotterêts, de la grande route à la ferme de Lanoux et de la ferme de Lanoux par les ravins à celle de Pisseleu. Puis il contournait les murs de la ferme, longeait les bergeries et les étables, et finissait par se trouver en face de la grande porte d'entrée, de l'autre côté de laquelle s'élevaient les bâtiments d'habitation. Cette fois encore, il suivit sa route accoutumée. Arrivé à la porte de la ferme, il regarda autour de lui, commu put faire Billot, et il aperçut Catherine à sa fenêtre. Catherine semblait attendre. Son œil vague, sans se fixer sur aucun point précis, parcourait toute l'étendue de forêt comprise entre le chemin de Villers-Cotterêts à La Ferté-Milon et celui de Villers-Cotterêts à Boursonne. Pitou ne cherchait point à surprendre Catherine. Il s'arrangea de manière à se trouver dans le rayon parcouru par son œil, et en le rencontrant, l'œil de la jeune fille s'arrêta sur lui. Elle lui sourit. Pitou, pour Catherine, n'était plus qu'un ami, ou plutôt, Pitou était devenu, pour elle, plus qu'un ami. Pitou était son confident. « Ah, c'est vous, mon cher Pitou, » dit la jeune fille. « Quel bon vent vous amène de notre côté ?» Pitou montra ses collets roulés autour de son poing. « Ah, j'ai eu l'idée de vous faire manger une couple de lapins bien tendres et bien parfumés, mademoiselle Catherine, et comme les meilleurs sont ceux de la Bruyère au Loup, à cause du serpolet qui pousse à foison, je suis parti longtemps à l'avance afin de vous voir en passant et de vous demander en même temps des nouvelles de votre santé. » Catherine commença par sourire à cette attention de Pitou, et puis, après avoir répondu à la première partie de son discours par un sourire, répondant à la seconde par la parole, « Des nouvelles de ma santé, vous êtes bien bon, cher monsieur Pitou, grâce aux soins que vous avez eus de moi quand j'étais malade et que vous avez continué de me rendre depuis ma convalescence, je suis à peu près guéri. » « À peu près guéri, reprit Pitou avec un soupir, hein, je voudrais bien que vous le fussiez tout à fait. » Catherine rougit, poussa un soupir à son tour, prit la main de Pitou comme si elle allait lui dire quelque chose d'important, mais se ravisant sans doute, elle lâcha la main qu'elle tenait et fit quelques pas à travers sa chambre comme si elle cherchait son mouchoir et, l'ayant trouvé, elle le passa sur son front couvert de sueur, quoiqu'on fût aux jours les plus froids de l'année. Aucun de ces mouvements n'échappa au regard investigateur de Pitou. « Vous avez quelque chose à me dire, mademoiselle Catherine ? » demanda-t-il. « Moi, non, rien, vous vous trompez, mon cher Pitou, » répondit la jeune fille d'une voix altérée. Et Pitou fit un effort. « C'est que, voyez-vous, dit-il, mademoiselle Catherine, si vous avez besoin de moi, il ne faudrait pas vous gêner. » Catherine réfléchit, ou plutôt hésita un instant. « Mon cher Pitou, dit-elle, vous m'avez prouvé que dans l'occasion, je pouvais compter sur vous, et je vous en suis bien reconnaissante, mais une seconde fois, je vous remercie. » Puis elle ajouta à voix basse, « Il est même inutile que vous passiez cette semaine à la poste. De quelques jours, je ne recevrai pas de lettres. » Et Pitou fut prêt de répondre qu'il s'en doutait, mais il voulut voir jusqu'où irait la confiance de la jeune fille envers lui. Elle se borna à la recommandation que nous venons de dire et qui avait tout simplement pour but de ne point faire tous les matins à Pitou une course inutile. Cependant, aux yeux de Pitou, la recommandation avait une plus haute portée. Ce n'était pas une raison pour Isidore de ne pas écrire que d'être revenu à Paris. Si Isidore n'écrivait plus à Catherine, c'est qu'il comptait la voir. Qui disait à Pitou que cette lettre datée de Paris et qu'il avait déposée le matin même dans le saule creux n'annonçait pas à Catherine l'arrivée prochaine de son amant? Qui lui disait que ce regard perdu dans l'espace lorsqu'il était apparu et que sa présence avait ramené sur lui-même ne cherchait pas à la lisière de la forêt quelques signes qui indiquât à la jeune fille que son amant était arrivé? Pitou attendit, afin de donner tout le temps à Catherine de débattre avec elle-même si elle avait quelque confidence à lui faire. Puis, voyant qu'elle gardait obstinément le silence, « Mademoiselle Catherine, dit-il, avez-vous remarqué le changement qui se fait chez Monsieur Billot ?» La jeune fille tressaillit. « Ah, dit-elle, répondant à une interrogation par une autre interrogation, avez-vous donc remarqué quelque chose, vous ?» Mademoiselle Catherine, dit Pitou en branlant la tête, il y aura bien sûr un moment, quand cela je n'en sais rien, où celui qui est cause de ce changement passera un mauvais quart d'heure. C'est moi qui vous dis cela, entendez-vous? Catherine pâlit, mais n'en regardant pas moins fixement Pitou. Pourquoi dites-vous celui et non pas celle? Demanda la jeune fille. C'est peut-être une femme et non un homme qui aura à souffrir de cette colère cachée. Ah, mademoiselle Catherine, dit Pitou, vous m'effrayez. Avez-vous donc quelque chose à craindre? Mon ami, fit tristement Catherine, j'ai à craindre ce qu'une pauvre fille qui a oublié sa condition et qui aime au-dessus d'elle peut craindre d'un père irrité. Mademoiselle, dit Pitou, hasardant un conseil, il me semble qu'à votre place... » Il s'arrêta. « Il vous semble qu'à ma place ? » répéta Catherine. « Eh bien, il me semble qu'à votre place... » « Ah, mais non, dit-il, vous avez failli mourir pour une simple absence qu'il a faite. S'il vous fallait renoncer à lui, ce serait pour en mourir tout à fait, et je ne veux pas que vous mouriez. Dussé-je vous voir malade et triste, j'aime encore mieux vous voir ainsi que là-bas, au bout du pleu. Ah, mademoiselle Catherine, c'est bien malheureux tout cela. » « Chut, dit Catherine, parlons d'autre chose, ou ne parlons pas du tout, voici mon père. » Pitou se retourna dans la direction du regard lancé par Catherine et vit en effet le fermier qui s'avançait au grand trot de son cheval. En apercevant un homme près de la fenêtre de Catherine, Billot s'arrêta. Puis, sans doute reconnaissant celui à qui il avait affaire, il continua son chemin. Pitou fit quelques pas au-devant de lui, souriant à sa venue et tenant son chapeau à la main. « Ah, c'est toi, Pitou, » dit Billot. « Viens-tu nous demander à dîner, mon garçon ?»« Non, monsieur Billot, » dit Pitou, « je ne me permettrai pas cela, mais... » En ce moment, il lui sembla qu'un regard de Catherine l'encourageait. « Mais quoi ?» reprit Billot. « Mais si vous m'invitiez, j'accepterais. »« Eh bien, » dit le fermier, « je t'invite. » « Alors, » répondit Pitou, « j'accepte. » Le fermier donna un coup d'éperon à son cheval et rentra sous la voûte de la porte cochère. Pitou se retourna vers Catherine. « Est-ce là ce que vous vouliez me dire ? » demanda-t-il. « Oui, il fait plus sombre encore aujourd'hui que les autres jours. » Puis elle ajouta tout bas, « Oh mon Dieu, est-ce qu'il saurait ?»« Et quoi, mademoiselle ?» demanda Pitou. Qui, si bas qu'eût parlé, Catherine avait entendu. Rien, dit Catherine, en se retirant dans sa chambre et en fermant sa fenêtre. Catherine ne s'était pas trompée. Malgré l'accueil affable qu'il avait fait à Pitou, son père paraissait plus sombre que jamais. Il donna une poignée de main à Pitou, et Pitou sentit cette main froide et humide. Sa fille, comme d'habitude, lui présenta ses joues pâlies et frissonnantes, mais il se contenta d'effleurer son front avec ses lèvres. Quant à la mère Billot, elle se leva par un mouvement qui lui était naturel lorsqu'elle voyait entrer son mari et qui tenait à la fois au sentiment de son infériorité et au respect qu'elle lui portait. Mais le fermier ne fit pas même attention à elle. « Le dîner est prêt ? » demanda-t-il. « Oui, notre homme, » répondit la mère Billot. « Alors à table, dit-il, j'ai encore beaucoup de choses à faire avant ce soir. » On passa dans la petite salle à manger de la famille. Cette salle à manger donnait sur la cour et personne ne pouvait, venant du dehors, entrer dans la cuisine sans passer devant la fenêtre par laquelle cette petite pièce recevait le jour. Un couvert fut ajouté pour Pitou que l'on plaça entre les deux femmes, le dos tourné à la fenêtre. Si préoccupé que fût Pitou, il y avait chez lui un organe sur lequel la préoccupation n'influait jamais, c'était l'estomac. Il en résulta donc que Billot, malgré toute la perspicacité de son regard, au premier service ne put voir autre chose dans son convive que la satisfaction qu'il éprouvait à l'aspect d'une excellente soupe aux choux et du plat de bœuf et de lard qui la suivit. Il était évident néanmoins que Billot désirait savoir si c'était le hasard ou un dessein prémédité qui avait amené Pitou à la ferme. Aussi, au moment où l'on enlevait le bœuf et le lard pour apporter un quartier d'agneau rôti, plat auquel Pitou regardait faire son entrée avec une joie visible, le fermier démasqua-t-il tout à coup ses batteries et, s'adressant directement à Pitou, « Ah, maintenant, mon cher Pitou, lui demanda-t-il, maintenant que tu vois que tu es toujours le bienvenu à la ferme, peut-on savoir ce qui t'attire aujourd'hui dans nos parages ?» Et Pitou sourit, jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait là ni regards indiscrets ni oreilles dangereuses, et relevant de la main gauche la main droite de sa veste, « Voilà, père Billot, lui dit-il, en montrant une vingtaine de collets en fil d'archal roulé comme un bracelet autour de son poignet. « Ah !» dit le père Billot, « tu as donc dépeuplé les garderies de Lompré et de Taillefontaine que tu te rabats par ici ?» « Oh, ce n'est pas cela, monsieur Billot, » dit naïvement Pitou, « mais depuis le temps que j'ai affaire à ces gueux de lapin-là, je crois qu'ils reconnaissent mes collets et qu'ils se détournent. J'ai donc décidé que je viendrais dire deux mots cette nuit à ceux du père Lajeunesse, qui sont moins malins et plus délicats, mangeant de la bruyère et du serpolet. « Peste, » dit le fermier, « je ne te savais pas si effrayant, maître Pitou. » « Oh, ce n'est pas pour moi que je suis friand, » dit Pitou, « c'est pour mademoiselle Catherine. Comme elle vient d'être malade, elle a besoin de viande fine. »« Ah oui, » reprit Billot, interrompant Pitou, « tu as raison, car tu vois qu'elle n'a pas encore d'appétit. » Et il montra du doigt l'assiette blanche de Catherine, qui, après avoir mangé quelques cuillerées de soupe, n'avait touché ni au bœuf ni au lard. « Je n'ai pas d'appétit, mon père, » dit Catherine, rougissant d'être interpellée ainsi, « parce que j'ai mangé une grande tasse de lait avec du pain un instant avant que M. Pitou passât près de ma fenêtre et que je l'appelasse. »« Oh, je ne cherche point la cause pour laquelle tu as ou tu n'as pas d'appétit, dit Pio. Je constate un fait, voilà tout. Et puis, à travers la fenêtre, jetant les yeux sur la cour, ah, dit-il en se levant, voilà quelqu'un pour moi. Et Pitou sentit le pied de Catherine s'appuyer vivement sur le sien. Il se retourna de son côté, la vit pâle comme la mort, et lui indiquant des yeux la fenêtre donnant sur la cour. Son regard suivit la direction du regard de Catherine, et il reconnut son vieil ami, le père Clouis, lequel passait devant la fenêtre le fusil à deux coups de billot sur l'épaule. Le fusil du fermier se distinguait des autres en ce que sa sous-garde et ses capucines étaient d'argent. Ah, dit Pitou, qui ne voyait dans tout cela rien de bien effrayant. Tiens, c'est le père Clouis. Ah, il rapporte votre fusil, monsieur Billot. Oui, dit Billot en se rasseyant, et il dînera avec nous s'il n'a pas dîné. Femme, ajouta-t-il, ouvre la porte au père Clouis. La mère Billot se leva et alla ouvrir la porte, tandis que Pitou, les yeux fixés sur Catherine, se demandait quoi de terrible dans ce qui se passait pouvait occasionner sa pâleur. Le père Clouis entra. Il tenait de la même main sur son épaule le fusil du fermier et un lièvre qu'il avait évidemment tué avec ce fusil. On se rappelle que le père Clovis avait reçu de monsieur le duc d'Orléans la permission de tuer un jour un lapin et un autre jour un lièvre. C'était, à ce qu'il paraissait, le jour du lièvre. Il porta la seconde main, celle qui n'était pas occupée, à une espèce de bonnet de fourrure qu'il portait habituellement et auquel il ne restait plus guère que la peau, tout éraflée qu'il était journellement par les fourrés dans lesquels passait le père Clovis, à peu près aussi insensible aux épines qu'un sanglier l'est à son tyran. Monsieur Billot et la compagnie, dit-il, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Ah, bonjour, papa Clovis, répondit Billot. Alors, vous êtes homme de parole, merci. Oh, ce qui est convenu, monsieur Billot. Vous m'avez rencontré ce matin, vous m'avez dit comme cela. Ah, père Clouis, vous qui êtes un fin tireur, assortissez-moi donc une douzaine de balles au calibre de mon fusil, vous me rendrez service. Ce à quoi je vous ai répondu, pour quand vous faut-il cela, monsieur Billot? Vous m'avez répondu, pour ce soir sans faute. Alors j'ai dit, c'est bon, vous l'aurez, et le voilà. Merci, père Clouis, dit Billot. Vous allez dîner avec nous, n'est-ce pas? Vous êtes bien honnête, monsieur Billot, je n'ai besoin de rien. Le père Clovis croyait que la civilité exigeait, quand on lui offrait un siège, qu'il dît qu'il n'était pas fatigué, et quand on l'inviterait à dîner, qu'il répondît qu'il n'avait pas faim. Billot connaissait cela. Ah, n'importe, dit-il, mettez-vous toujours à table, il y a à boire et à manger, si vous ne mangez pas, vous boirez. Pendant ce temps, la mère Billot, avec la régularité et presque le silence d'un automate, avait posé sur la table un couvert et une serviette. Puis elle approcha une chaise. Dame, puisque vous le voulez absolument, dit le père Clouis, et il alla porter le fusil dans un coin, posa son lièvre sur le rebord du buffet et vint s'asseoir à table. Il se trouvait placé juste en face de Catherine, qui le regardait avec terreur. Le visage doux et placide du vieux garde semblait si peu fait pour inspirer ce sentiment que Pitou ne pouvait se rendre compte des émotions que trahissait non seulement le visage de Catherine, mais encore le tremblement nerveux qui agitait tout son corps. Cependant, Billot avait rempli le verre et l'assiette de son convive, lequel, quoi qu'il eût déclaré n'avoir besoin de rien, attaqua bravement l'un et l'autre. Ah, voilà un joli vin, monsieur Billot, fit-il, comme pour rendre hommage à la vérité, et un aimable agneau. Et il paraît que vous êtes de l'avis du proverbe qui dit, il vaut mieux manger les agneaux trop jeunes et boire le vin trop vieux. Personne ne répondit à la plaisanterie du père Clouis, lequel, voyant que la conversation tombait, et se croyant, en sa qualité de convive, obligé de la soutenir, continua. Je me suis donc dit comme cela, ma foi, c'est aujourd'hui le tour des lièvres, autant que je tue mon lièvre d'un côté de la forêt que de l'autre. Je vais donc aller tuer mon lièvre sur la garderie du père Lajeunesse. Je verrai en même temps comment un fusil monté en argent porte la balle. J'ai donc fondu 13 balles au lieu de 12. Ma foi, il la porte bien, la balle, votre fusil. Oui, je sais cela, répondit Billot, c'est une bonne arme. Tiens, 12 balles, observa Pitou, il y a donc un prix au fusil quelque part, monsieur Billot.
Non, répondit Billot.
Ah, c'est que je le connais, le monté en argent, comme on l'appelle dans les environs, continua Pitou. Je lui en ai vu faire des siennes à la fête de Boursonne il y a 2 ans. Tiens, c'est là qu'il a gagné le couvert d'argent avec lequel vous mangez, madame Billot, et la timbale dans laquelle vous buvez, mademoiselle Catherine.
Oh, mais, s'écria Pitou effrayé, qu'avez-vous donc, mademoiselle?
Moi, rien, dit Catherine en rouvrant ses yeux à moitié fermés et en se redressant sur sa chaise contre le dos de laquelle elle s'était laissée aller à moitié évanouie.
Catherine, qu'est-ce que tu veux qu'elle l'ait? Dit Billot, haussant les épaules.
Ah, justement, continua le père Clouis, il faut vous dire que dans la vieille ferraille, chez Montagnon l'armurier, j'ai trouvé un moule. Ah, c'est que c'est rare, un moule, comme il vous en faut un. Ces diables de petits canons de Leclerc, ils ont presque tous du calibre 24, ce qui ne les empêche pas de porter, Dieu sait où. J'ai donc retrouvé un moule juste du calibre de votre fusil, un peu plus petit même. Mais cela ne fait rien, au contraire, vous enveloppez la balle dans une peau graissée. Est-ce pour tirer à la course ou à coup posé?
Je n'en sais rien encore, répondit Billot. Tout ce que je puis dire, c'est que c'est pour aller à l'affût.
Ah oui, je comprends, dit le père Clouis. Les sangliers de monsieur le duc d'Orléans, ils sont friands de vos parmentières, et vous vous êtes dit autant dans le saloir, autant qu'ils n'en mangent plus.
Il se fit un silence qui n'était troublé que par la respiration haletante de Catherine. Les yeux de Pitou allaient du garde à Billot et de Billot à sa fille. Il cherchait à comprendre et n'y arrivait pas. Quant à la mère Billot, il était inutile de demander aucun éclaircissement à son visage. Elle ne comprenait rien de ce qu'on disait et à bien plus forte raison de ce qu'on voulait dire.
« Ah, c'est que, continua le père Clouis, poursuivant sa pensée, c'est que si les balles sont pour les sangliers, elles sont peut-être un peu bien petites, voyez-vous, ça a la peau dure, ces messieurs-là, sans compter que ça revient sur le chasseur. Ah, j'en ai vu des sangliers qui avaient 5, 6, 8 balles entre cuir et chair et des balles de munitions encore, de 16 à la livre, et qui ne s'en portaient que mieux. »«
Ce n'est pas pour les sangliers, dit Billot. »
Pitou ne put résister à la curiosité.
« Pardon, monsieur Billot, dit-il, mais si ce n'est pas pour tirer au prix, si ce n'est pas pour tirer sur les sangliers, c'est pour tirer pour quoi, alors ?»«
Pour tirer sur un loup, dit Billot. »«
Ah, eh bien, si c'est pour tirer sur un loup, voilà votre affaire, dit le père Clouis, prenant les 12 balles dans sa poche et les transvasant dans une assiette où elles tombèrent en cliquetant.
Quant à la 13e, elle est dans le ventre du lièvre.
Ah, je ne sais pas comment il porte le plomb, mais il porte joliment la balle, votre fusil. »
Si Pitou eût regardé Catherine, il eût vu qu'elle était près de s'évanouir. Mais, tout à ce que disait le père Clouis, il ne regardait pas la jeune fille. Aussi, lorsqu'il entendit le vieux garde dire que la 13e balle était dans le ventre du lièvre, il ne put y résister et se leva pour aller vérifier le fait.
« Ah, c'est vrai, ma foi, dit-il en fourrant son petit doigt dans le trou de la balle.
« Cette affaire à vous, père Clouis. Ah, monsieur Billot, vous tirez bien, mais vous ne tuez pas encore les lièvres comme ça, à balles franches. »
« Oh, dit Billot, peu importe, du moment que l'animal sur lequel je tirerai est 20 fois gros comme un lièvre, j'espère que je ne le manquerai pas. »«
Ah, le fait est, dit Pitou, qu'un loup...
Mais vous parlez de loup, il y en a dans le canton, c'est étonnant avant la neige. »«
Oui, c'est étonnant, mais c'est comme cela cependant. »
« Vous êtes sûr, monsieur Billot ?»«
Très sûr, répondit le fermier, en regardant à la fois Pitou et Catherine, ce qui était facile, puisqu'ils étaient placés l'un près de l'autre. Le berger en a vu un ce matin. »«
Où cela ?» demanda naïvement Pitou.
« Sur la route de Paris à Boursonne, près du taillis d'Ivore. »«
Ah !» fit Pitou, regardant à son tour Billot et Catherine.
« Oui, continua Billot avec la même tranquillité, on l'avait déjà remarqué l'année dernière et l'on m'avait prévenu. Quelque temps on l'a cru parti pour ne plus revenir, mais... »«
Mais ?» demanda Pitou. Mais il paraît qu'il est revenu, dit Billot, et qu'il s'apprête à tourner encore autour de la ferme. Voilà pourquoi j'ai dit au père Clovis de me nettoyer mon fusil et de me couler les balles. C'est tout ce que pouvait supporter Catherine. Elle poussa une espèce de cri étouffé, se leva et, toute trébuchante, se dirigea vers la porte. Pitou, moitié naïf, moitié inquiet, se leva aussi et, voyant Catherine chanceler, s'élança pour la soutenir. Billot jeta un regard terrible du côté de la porte, mais l'honnête visage de Pitou manifestait une trop grande expression d'étonnement pour qu'il pût soupçonner son propriétaire de complicité avec Catherine. Sans s'inquiéter davantage ni de Pitou ni de sa fille, il poursuivit donc. « Ainsi vous dites, père Clovis, que, pour assurer le coup, il sera bon d'envelopper les balles dans un morceau de peau graissée ?» Et Pitou entendit encore cette question, mais il n'entendit pas la réponse, car arrivé en ce moment dans la cuisine où il venait de rejoindre Catherine, il sentit la jeune fille s'affaisser entre ses bras. « Mais qu'avez-vous donc, mon Dieu? Qu'avez-vous donc ?» demanda Pitou, effrayé. « Oh, dit Catherine, vous ne comprenez donc pas. Il sait qu'Isidore est arrivé ce matin à Boursonne et il veut l'assassiner s'il approche de la ferme. » En ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit et Billot parut sur le seuil. « Mon cher Pitou, dit-il d'une voix si dure qu'elle n'admettait pas de réplique, si tu es venu en réalité pour les lapins du père Lajeunesse, je crois qu'il est temps que tu ailles tendre tes collets. Tu comprends, plus tard, tu n'y verrais plus. » « Oui, monsieur Billot, dit humblement Pitou, en jetant un double regard sur Catherine et sur Billot. « J'étais venu pour cela, pas pour autre chose, je vous le jure. « Eh bien alors ?»« Eh bien alors, j'y vais, monsieur Billot. » Et il sortit par la porte de la cour, tandis que Catherine éplorée rentrait dans sa chambre, dont elle poussait le verrou derrière elle. « Oui, murmura Billot, oui, enferme-toi, malheureuse. Peu importe, car ce n'est pas de ce côté-ci que je me mettrai à l'affût. » Pitou sortit de la ferme tout abasourdi. Seulement, aux paroles de Catherine, il avait vu jour dans tout ce qui avait été obscurité pour lui jusque-là, et ce jour l'avait aveuglé. Pitou savait ce qu'il voulait savoir, et même davantage. Il savait que le vicomte Isidore de Charny était arrivé le matin à Boursonne, et que s'il se hasardait à venir voir Catherine à la ferme, il risquait de recevoir un coup de fusil. Car il n'y avait pas de doute à garder. Les paroles de Billot, paraboliques d'abord, s'étaient éclaircies au seul mot prononcé par Catherine. Le loup qu'on avait vu l'année dernière rôder autour de la bergerie, que l'on croyait parti pour toujours et que l'on avait revu le matin même près du taillis d'Ivor sur la route de Paris à Boursonne, c'était le vicomte Isidore de Charny. C'était à son intention que le fusil avait été nettoyé, c'était pour lui que les balles avaient été fondues. Comme on le voit, cela devenait grave. Et Pitou, qui avait quelquefois, lorsque l'occasion l'exigeait, la force du lion, avait presque toujours la prudence du serpent. En contravention depuis le jour où il avait atteint l'âge de raison, à l'endroit des gardes champêtres, sous le nez desquels il allait dévaster les vergers fermés de haies ou les arbres fruitiers en plein champ, en contravention à l'endroit des gardes forestiers, sur les talons desquels il allait tendre ses gluots et ses collets, il avait pris une habitude de réflexion profonde et de décision rapide qui, dans tous les cas dangereux où il s'était trouvé, lui avait permis de se tirer d'affaire aux meilleures conditions possibles. Cette fois donc, comme les autres, appelant à son secours d'abord la décision rapide, il se décida immédiatement à gagner le bois situé à 80 pas de la ferme environ. Le bois est couvert et, sous ce couvert, où il est facile de demeurer inaperçu, on peut réfléchir à son aise. Dans cette occasion, Pitou, comme on le voit, avait interverti l'ordre ordinaire des choses en mettant la décision rapide avant la réflexion profonde. Mais Pitou, avec son intelligence instinctive, avait été au plus pressé, et le plus pressé pour lui, c'était d'avoir un couvert. Il s'avança donc vers la forêt d'un air aussi dégagé que si sa tête n'eût point porté un monde de pensées, et il atteignit le bois, ayant eu la force de ne pas jeter un regard derrière lui. Il est vrai que dès qu'il eut calculé qu'il était hors de vue de la ferme, il se baissa comme pour boucler le sous-pied de sa guêtre, et la tête entre les deux jambes, il interrogea l'horizon. L'horizon était libre et ne paraissait pour le moment offrir aucun danger. Ce que voyant, Pitou reprit la ligne verticale et d'un bond se trouva dans la forêt. La forêt, c'était le domaine de Pitou. Là, il était chez lui, là, il était libre, là, il était roi. Roi comme l'écureuil dont il avait l'agilité, comme le renard dont il avait les ruses, comme le loup dont il avait les yeux qui voient pendant la nuit. Mais à cette heure, il n'avait besoin ni de l'agilité de l'écureuil, ni des ruses du renard, ni des yeux nyctalopes du loup. Il s'agissait tout simplement, pour Pitou, de couper en diagonale la portion de bois sur laquelle il s'était enfoncé et de revenir à cet endroit de la lisière de la forêt qui s'étendait dans toute la longueur de la ferme. À 60 ou 70 pas de distance, Pitou verrait tout ce qui se passerait. Avec 60 ou 70 pas de distance, Pitou défiait tout être, quel qu'il fût, obligé de se servir pour se mouvoir et attaquer de ses pieds et de ses mains. Il va sans dire qu'il défiait bien autrement un cavalier, car il n'en était pas un seul qui eût pu faire 100 pas dans la forêt par les chemins où l'eût conduit Pitou. Aussi, en forêt, Pitou n'avait pas de comparaison assez dédaigneuse pour dire combien il méprisait un cavalier. Pitou se coucha de tout son long dans une cépée, appuya son cou sur 2 arbres jumeaux se séparant à leur tige et réfléchit profondément. Il réfléchit qu'il était de son devoir d'empêcher, autant qu'il serait en lui, le père Billot de mettre à exécution la terrible vengeance qu'il méditait. Le premier moyen qui se présenta à l'esprit de Pitou fut de courir à Boursonne et de prévenir M. Isidore du danger qu'il attendait s'il se hasardait du côté de la ferme. Mais presque aussitôt, il réfléchit à 2 choses. La première, c'est qu'il n'avait pas reçu de Catherine mission de faire cela. La seconde, c'est que le danger pourrait bien ne pas arrêter M. Isidore. Puis, quelle certitude avait Pitou que le vicomte, dont l'intention était sans doute de se cacher, viendrait par la route, frayé aux voitures, et non par quelques-uns de ces petits sentiers que suivent pour raccourcir leur chemin les bûcherons et les ouvriers de bois. D'ailleurs, en allant à la recherche d'Isidore, Pitou abandonnait Catherine, et Pitou, qui, à tout prendre, eût été fâché qu'il arrivât malheur au vicomte, eût été désespéré qu'il arrivât malheur à Catherine. Ce qui lui parut le plus sage, ce fut donc d'attendre où il était et de prendre, selon ce qui surviendrait, conseil des circonstances. En attendant, ses yeux se braquèrent sur la ferme, fixe et brillant, comme ceux d'un chat-tigre qui guette sa proie. Le premier mouvement qui s'y opéra fut la sortie du père Clouis. Pitou le vit prendre congé de Billot sous la porte cochère, puis longer le mur en clopinant et disparaître dans la direction de Villers-Cotterêts qu'il devait traverser ou contourner pour se rendre à sa hutte, distance d'une lieue et demie à peu près de Pisseleu. Au moment où il sortit, le crépuscule commençait à tomber. Comme le père Clouis n'était qu'un personnage fort secondaire, une espèce de comparse dans le drame qui se jouait, Pitou n'attacha à lui qu'une attention médiocre, et l'ayant, pour l'acquis de sa conscience, suivi de regard jusqu'au moment où il disparut à l'angle du mur, il ramena ses yeux sur le centre du bâtiment, c'est-à-dire là où s'ouvraient la porte cochère et les fenêtres. Au bout d'un instant, une des fenêtres s'éclaira, c'était celle de la chambre de Billot. De l'endroit où était Pitou, le regard plongeait parfaitement dans la chambre. Pitou put donc voir Billot rentrer chez lui, charger son fusil avec toutes les précautions recommandées par le père Clouis. Pendant ce temps, la nuit achevait de tomber. Billot, son fusil une fois chargé, éteignit sa lumière et tira les 2 volets de sa fenêtre, mais de façon à les garder entrebâillés, pour que, sans doute, son regard pût observer les alentours par cet entrebâillement. De la fenêtre de Billot, située au premier, nous croyons l'avoir déjà dit, on ne voyait pas, à cause d'un coude formé par les murs de la ferme, la fenêtre de la chambre de Catherine, située au rez-de-chaussée, mais on découvrait entièrement le chemin de Boursonne et tout le cercle de la forêt qui s'arrondit de la montagne de la Ferté-Milon et que l'on appelle le taillis d'Ivor. tout en ne voyant pas la fenêtre de Catherine, en supposant que Catherine sortît par cette fenêtre et essaya de gagner le bois, Billot pouvait donc l'apercevoir du moment où elle entrerait dans le rayon embrassé par son regard. Seulement, comme la nuit allait de plus en plus s'épaississant, Billot verrait une femme, pourrait se douter que cette femme est Catherine, mais ne pourrait pas la reconnaître d'une façon certaine pour être Catherine. Nous faisons d'avance toutes ces remarques, parce que c'était celle que se faisait Pitou. Pitou ne doutait point que, la nuit tout à fait venue, Catherine ne tentât une sortie pour prévenir Isidore. Sans perdre entièrement de vue la fenêtre de Billot, ce fut donc sur celle de Catherine que ses yeux se fixèrent plus particulièrement. Pitou ne se trompait pas. Lorsque la nuit eut atteint un degré d'obscurité qui parut suffisant à la jeune fille, Pitou, pour lequel, nous l'avons dit, il n'y avait pas d'obscurité, vit s'ouvrir lentement le volet de Catherine. Puis celle-ci enjambait l'appui de la fenêtre, repoussait le volet et se glissait tout le long de la muraille. Il n'y avait pas de danger pour la jeune fille d'être vue tant qu'elle suivrait cette ligne. Et, en supposant qu'elle eût affaire à Villers-Cotterêts, elle eût pu y arriver inaperçue. Mais si, au contraire, elle avait affaire du côté de Boursonne, il lui fallait absolument entrer dans le rayon que le regard embrassait de la fenêtre de son père. Arrivée au bout du mur, elle hésita pendant quelques secondes, de sorte que Pitou eut un instant l'espérance que c'était à Villers-Cotterêts et non à Boursonne qu'elle allait. Mais, tout à coup, cette hésitation cessa, et se courbant pour se dérober autant qu'elle pouvait aux yeux, elle traversa le chemin et se jeta dans une petite sente, rejoignant la forêt par une courbe qui se continuait sous bois et allait tomber, à un quart de lieue à peu près, dans le chemin de Boursonne. Cette sente aboutissait à un petit carrefour appelé le carrefour de Bourg-Fontaine. Une fois Catherine dans la sente, le chemin qu'elle allait suivre et l'intention qui la conduisait étaient si clairs pour Pitou qu'il ne s'occupa plus d'elle, mais seulement de ses volets entr'ouverts par lesquels, comme à travers la meurtrière d'une citadelle, le regard plongeait d'une extrémité à l'autre du bois. Tout ce rayon embrassé par le regard de Billot était, à part un berger dressant son parc, parfaitement solitaire. Il en résulta que, dès que Catherine entra dans ce rayon, quoique son mantelet noir la rendît à peu près invisible, elle ne put cependant échapper au regard perçant du fermier. Pitou vit les volets s'entrebâiller, la tête de Billot passer par l'entrebâillement et demeurer un instant fixe et immobile, comme s'il eût douté dans ses ténèbres du témoignage de ses yeux. Mais les chiens du berger ayant couru dans la direction de cette ombre, et après avoir donné quelques coups de gueule étant revenus vers leur maître, Billot ne douta plus que cette ombre ne fût Catherine. Les chiens, en s'approchant d'elle, l'avaient reconnue et avaient cessé d'aboyer en la reconnaissant. Il va sans dire que tout cela se traduisait pour Pitou aussi clairement que s'il eût été d'avance au courant des divers incidents de ce drame. Il s'attendait donc à voir refermer les volets de la chambre de Billot et à voir s'ouvrir la porte cochère. En effet, au bout de quelques secondes, la porte s'ouvrit, et comme Catherine atteignait la lisière du bois, Billot, son fusil sur l'épaule, franchissait le seuil de la porte et s'avançait à grands pas vers la forêt, suivant ce chemin de Boursonne où devait aboutir, après un demi-quart de lieue, la sente suivie par Catherine. Il n'y avait pas un instant à perdre pour que, dans 10 minutes, la jeune fille ne se trouvât point en face de son père. Ce fut ce que comprit Pitou. Il se releva, bondit à travers les taillis comme un chevreuil effarouché, et, coupant diagonalement la forêt dans le sens inverse de sa première course, il se trouva au bord du sentier, au moment où l'on entendait déjà les pas pressés et la respiration haletante de la jeune fille. Pitou s'arrêta, caché derrière le tronc d'un chêne. Au bout de 10 secondes, Catherine passait à 2 pas de ce chêne. Pitou se démasqua, barra le chemin de la jeune fille et se nomma du même coup. Il avait jugé nécessaire cette unité d'une triple action pour ne pas trop épouvanter Catherine. En effet, elle ne jeta qu'un faible cri et, s'arrêtant, toute tremblante, moins de l'émotion présente que de l'émotion passée, « Ah, vous, monsieur Pitou, ici, que me voulez-vous » dit-elle. « Pas un pas de plus, au nom du ciel, mademoiselle, » dit Pitou en joignant les mains. « Et pourquoi cela ?» Parce que votre père sait que vous êtes sorti, parce qu'il suit la route de Boursonne avec son fusil, parce qu'il vous attend au carrefour de Bourgfontaine. Mais lui, lui, dit Catherine presque égarée, il ne sera donc pas prévenu. Et elle fit un mouvement pour continuer son chemin. Le sera-t-il davantage, dit Pitou, lorsque votre père vous aura barré la route? Que faire? Revenez, mademoiselle Catherine, rentrez dans votre chambre. Je me mettrai en embuscade aux environs de votre fenêtre, et lorsque je verrai monsieur Isidore, je le préviendrai. Ah, vous ferez cela, cher monsieur Pitou? Pour vous, je ferai tout, mademoiselle Catherine. Ah, c'est que je vous aime bien, moi, allez. Catherine lui serra les mains, puis, au bout d'une seconde de réflexion, « Oui, vous avez raison, dit-elle, ramenez-moi. » Et comme les jambes commençaient à lui manquer, elle passa son bras sous celui de Pitou, qui lui fit reprendre, lui marchant, elle courant, le chemin de la ferme. 10 minutes après, Catherine rentrait chez elle sans avoir été vue et refermait sa fenêtre derrière elle, tandis que Pitou lui montrait le groupe de saules dans lequel il allait veiller et attendre.